sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session organisée par l'Académie MEDEF. On est sur un cycle transition écologique et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement est l'autoconsommation énergétique individuelle avec des retours d'expérience d'entreprise. Pour animer ce webinaire, nous avons avec nous Sébastien Douguet et Myriam Nicolas du pôle transition écologique accompagnés de plusieurs intervenants. Merci à toutes et à tous et bon webinaire. Myriam.
Merci beaucoup Céline et merci à l'Académie pour l'ensemble de votre programme de sensibilisation. On est ravis d'accueillir nos intervenants pour le sujet du jour, donc l'autoconsommation d'électricité des entreprises. Je suis Myriam Nicolas, chargée de mission au sein du pôle transition écologique et avec Sébastien, on a déjà entamé un cycle de sensibilisation des entreprises sur l'autoconsommation. En mars dernier, on avait accueilli l'UFE, l'ADEME et Enerplan pour un état des lieux réglementaire et un retour sur les perspectives économiques, réglementaires, pratiques de l'autoconsommation individuelle. Et aujourd'hui, on plonge davantage dans le sujet avec des intervenants qui, sur le terrain, mettent en œuvre l'autoconsommation. Donc on a le plaisir d'accueillir des représentants donc du CERS, organisation professionnelle qui représente en France les entreprises de la transition énergétique et numérique, avec l'entreprise Eliov, qui est une entreprise qui fait partie de Vinci Énergie, et Hervé Thermique, tous deux donc adhérents du CERS. Donc on a d'un côté Oudamata, vous êtes chef d'entreprise au sein d'Eliov et vous êtes accompagné de Corentin Malcha, responsable d'affaires au sein d'Eliov. Et côté Hervé Thermique, nous avons Jonathan Lusineau, vous êtes en charge de l'activité photovoltaïque et vous êtes accompagné du chef de projet Maxime Pain. Avant de vous laisser la parole, on souhaite simplement avec Sébastien faire un petit retour d'expérience des principaux enseignements que nous avons tirés du précédent webinaire. Donc en premier lieu, l'autoconsommation, petite définition que vous pourrez peaufiner par la suite, c'est la capacité à produire et consommer, utiliser tout ou partie d'une production d'électricité réalisée en propre. Principalement, encore aujourd'hui, c'est de la production d'électricité solaire photovoltaïque. C'est un outil essentiel pour atteindre nos objectifs de décarbonation du mix énergétique, en particulier parce qu'elle permet d'associer développement d'énergie renouvelable, notamment solaire. Elle contribue à l'électrification des usages sur site, avec notamment les véhicules électriques. Et c'est aussi une brique essentielle auquel on ne pense pas forcément en termes de réseau d'électricité, car elle permet c'est une brique, elle participe aux outils de flexibilisation de la demande et de stockage, et elle permet de réduire les besoins de renforcement du réseau d'électricité. À l'échelle des entreprises, l'autoconsommation énergétique a aussi un intérêt, déjà parce qu'elle peut contribuer en termes de contribution à la transition énergétique, aux démarches RSE des entreprises, mais aussi elle permet de mieux maîtriser la dépense énergétique dans un contexte où les prix de l'énergie ne cessent de croître, sont parfois volatiles, et donc ça permet de maîtriser et de gagner en autonomie sur cette dépense stratégique pour les entreprises. Donc, on observe une montée de l'autoconsommation avec un réel essor ces dernières années. Il y a déjà 2,5 gigawatts qui sont installés en France et avec une croissance qui ne se dément pas, que ce soit côté particulier et de plus en plus côté entreprise, poussé par la baisse des coûts des équipements, un cadre réglementaire de plus en plus incitatif et une prise de conscience des entreprises en termes d'intérêt économique de cette solution. Donc voilà, pour la petite mise en contexte, et sans plus attendre, je vais confier la parole à Oudamata et Corentin Malcha pour plonger davantage en termes pratiques, économiques, avec plus de précision sur l'autoconsommation. On est ravis de vous accueillir, et aux participants, un instant, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on pourra les relever à la fin des présentations, et peut-être même vous donner la parole pour l'interaction finale. Merci beaucoup.
Merci. Aujourd'hui, Eliov, c'est une entreprise spécialisée dans le photovoltaïque au sein de Vinci Énergie qui a un double rôle. Le rôle de participer au travers du financement à la solarisation du parc de Vinci Énergie. Et c'est ce rôle-là qu'on vient vous exposer aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, on offre également pour des clients externes des offres clés en main. Mais du coup, commençons par le premier sujet, c'est comment Elliott contribue à la solarisation du parc de Vinci Energy. Donc, Vinci Energy, c'est une multitude d'entreprises. Il y a un peu plus que 650 sites en France. Et donc, il y avait un fort enjeu de solarisation. Pourquoi ce fort enjeu de solarisation? Pour deux raisons assez essentielles. Le groupe a pris un engagement volontariste de réduction de son empreinte CO2 d'ici 2030 puis 2050. Et en fait, chacune des entreprises du groupe s'est appropriée cette démarche et a essayé de mettre en place des actions concrètes pour la réduction de son empreinte carbone. Notamment, il y a vraiment deux actions qui sont assez importantes, qui sont le déploiement de flottes de véhicules électriques quasi partout au sein de nos entreprises. En fait, par le fait qu'on utilise plus de véhicules électriques, on est en train d'augmenter la consommation électrique de nos sites, finalement, parce que, certes, c'est décarboné, je veux dire, la partie électrique est plus intéressante que le reste, mais par contre, on est en train d'augmenter lors des horaires du travail, la consommation de nos propres bâtiments. Et donc aujourd'hui, la présence du solaire en autoconsommation nous permet de mieux maîtriser cette hausse de la consommation énergétique au sein de nos bâtiments. Le deuxième sujet, c'est que nous suivons de très près la note énergétique de nos bâtiments, si on est propriétaire de ces sites-là ou si on est locataire également. Donc l'idée, c'est qu'on essaye d'avoir des notes énergétiques qui tourne autour de B ou C, et ne plus avoir des passoires thermiques nulle part. Et également, la partie photovoltaïque, c'est une action en plus au sein des bâtiments, quand elle est en autoconsommation, qui nous permet d'effacer une partie de la consommation énergétique de ces bâtiments au travers de travaux simples qui peuvent se faire en site occupé, parce que on n'est pas en mesure aujourd'hui de fermer notre activité pour faire des gros travaux en site non occupé. Donc le photovoltaïque, c'est quand même des travaux plutôt simples qui nous permettent de faire un effacement énergétique. Pourquoi Elliott a été créé, sachant qu'on a plein d'entreprises qui savent faire des installations photovoltaïques un peu partout? Elle a été créée pour plusieurs raisons. Parce que, un, c'est un métier d'expert. Donc il y a les études photovoltaïques, les études de structure, d'étanchéité. Dès lors qu'on est sur des toitures, il faut s'assurer que le bâtiment est bien en capacité de recevoir ce photovoltaïque-là d'une façon validée par des bureaux de contrôle, que l'assurance veut bien prendre en charge. Donc, il y a vraiment des études assez poussées, qui sont des études électriques, mais également des études sur la structure, l'étanchéité et tous ces sujets-là qui entrent dans le jeu. Le deuxième sujet, c'est que le photovoltaïque se réfléchit également d'une façon plutôt financière, par le fait que on est en mesure de revendre le surplus, on est en mesure de faire des économies d'énergie et donc des économies de coûts finalement. Il y a un business plan qui se monte. Ce business plan, il est sur 20 ans par le fait que les panneaux et les onduleurs sont garantis sur une durée assez longue et également parce que EDF Obligations d'achat achète le surplus sur une durée de 20 ans. Et donc ces durées longues, on ne sait pas forcément les prendre en compte d'un point de vue financier partout dans nos entreprises. Donc, le fait de les centraliser au sein d'une même entité, ça nous permet de savoir créer ces business plans, de savoir amortir sur un temps très long. Et c'est aussi pourquoi Elliott a été créé. On a également été créé parce que ça nous permet de centraliser les achats, ça nous permet d'optimiser l'exploitation maintenance, parce qu'il y a certaines actions qui, si on les prend en one shot, peuvent être un peu compliquées, mais si on arrive à faire quelque chose régional, qui optimise le nettoyage, la maintenance, qui nous permet également de discuter sur l'achat des panneaux, ça a beaucoup plus de sens. Et finalement, parce que le photovoltaïque, il s'inscrit dans une démarche immobilière plus globale, dans le sens où, quand on est sur l'existant, il faut bien avoir en tête, déjà, où sont nos sites? Est-ce qu'on va rester sur ces sites-là où on est en train de changer, de vendre, de louer ailleurs? Est-ce que nous sommes en train de faire des gros travaux de toiture notamment, et donc il faut en profiter pour mettre le photovoltaïque tout de suite? Est-ce que, au contraire, c'est des sites qui ont déjà finalisé leurs travaux, donc si la toiture aujourd'hui n'est pas solarisable, ils ne cherchent pas à faire des gros travaux d'ici 5-10 ans, donc ça n'a pas beaucoup de sens de leur proposer de refaire toute leur toiture. Donc en fait, il y a une vision des travaux, du parc immobilier, qui est assez importante quand on est sur des sites existants, qui font que c'est intéressant de l'avoir d'une façon centralisée. Et puis, il y a également un sujet de mutualisation des risques, dans le sens où, aujourd'hui, si on a un parc partout en France métropolitaine et climatiquement, il y a un petit souci sur l'une des régions, quand les risques sont mutualisés sur toute la France, c'est quand même beaucoup plus simple que si, entreprise par entreprise, on prend le risque nous-mêmes. Voilà par rapport au contexte de création d'Eliov, sachant que Eliov, donc, il est financeur et on est bureau d'études. Par contre, d'un point de vue de travaux, on va toujours s'associer avec l'entreprise Vinci Énergie spécialisée régionale pour qu'elle nous fasse les travaux. Et en fait, on travaille main dans la main pour passer de nos études en amont vers les études d'exécution qui sont réalisées par les entreprises régionales pour qu'on ait quelque chose qui soit cohérent sur toute la durée de vie du projet, mais également que chacun fasse son travail au plus près de ce qu'il sait faire et au plus près du terrain. Je vais passer la main à Corentin qui va nous parler d'un projet assez concret qu'on a réalisé dans le nord de la France sur l'une des entreprises de Vinci Énergie.
Oui, alors bonjour à tous. Donc comme le disait Ouda, on va vous présenter un projet qui est quand même un projet assez important qu'on a réalisé ces derniers temps. Donc pour vous présenter un peu le contexte, en fait il s'agissait d'un projet pour lequel le client a été motivé par plusieurs choses. Donc premièrement, en fait, lui, il souhaitait se prémunir contre la volatilité des prix de l'énergie et il voulait réaliser des économies sur sa facture d'électricité. Aussi, il souhaitait sécuriser en fait une partie de ses ressources et donc de gagner en autonomie grâce à l'autoconsommation, justement. Et puis, il souhaitait répondre aux enjeux RSE, notamment l'amélioration de l'impact environnemental par l'électrification des usages, par exemple, de son entreprise. Donc, il s'agit d'un projet dans le nord de la France avec un productible peu élevé, du coup, mais il était quand même viable parce que c'était un projet où il y avait de grosses consommations en raison de l'activité industrielle de l'entreprise et une grande surface en toiture disponible. On a pu installer quand même 246 kilowatts-crête, pardon, et donc ce qui représente une production annuelle d'environ 246 mégawatt-heure. Donc, en effet, ce client-là, en fait, il consomme à peu près 480 mégawatt-heure, ce qui nous permet d'atteindre, en fait, un taux d'autoconsommation d'environ 65%, donc soit 156 mégawatt-heure, et ça représente quand même presque un tiers de la consommation effacée. Donc ça, c'est beaucoup plus parlant en fait sur la slide suivante avec les profils de production où en fait on voit là ce qui est en bleu, c'est les consommations du client, donc mois par mois, mais sur une année. Ce qui est en orange, c'est la production grâce au photovoltaïque et ce qui est en jaune, c'est ce que le client peut effacer de ses consommations, donc l'autoconsommation. Donc on remarque bien que forcément on va plus produire en été et donc on va effacer quand même une partie qui est beaucoup plus importante qu'au mois de janvier ou au mois de décembre par exemple. Par contre, on remarque que malgré que les consommations sont supérieures à la production, il y a quand même une partie qui va être vendue sur le réseau. En fait, c'est la différence entre la courbe orange et la courbe jaune. Donc ça, en fait, c'est dû aux consommations du client qui ont lieu lorsqu'on ne produit pas avec le solaire, donc ça va être les heures creuses principalement. Voilà. Donc ce projet était aussi très intéressant parce qu'en plus de la partie solaire, en fait, de la partie solaire à proprement parler, il y avait vraiment deux autres gros sujets à traiter. Donc premièrement, il y avait un renforcement structurel qui était nécessaire pour supporter la nouvelle charge. Et en fait, il a fallu faire preuve de précision et d'y reprendre vraiment à plusieurs fois avec l'ingénieur structure en modifiant légèrement le capinage à chaque fois pour ne pas se situer sur les zones en fait les plus impactées et de n'avoir qu'à faire de légers renforcements parce qu'en effet, ça s'est joué vraiment à quelques kilogrammes près pour que l'on ait à pas faire des renforcements beaucoup plus lourds, ce qui aurait presque triplé le prix des travaux. Donc enfin, les toitures des bâtiments n'étaient initialement pas PV ready, donc ça aurait normalement été nécessaire d'en fait de procéder à la dépose de l'isolant et de la membrane d'étanchéité, ce qui représentait un coût vraiment trop important au vu de la surface de la toiture pour la viabilité du projet. Et en fait, heureusement, on a consulté quand même un grand nombre de constructeurs de systèmes d'intégration et Sopra Solar nous ont proposé un nouveau procédé qui consiste en fait au rechapage de l'étanchéité et qui est uniquement réalisable si l'atoll peut supporter une charge importante, c'est à peu près 30 kg au mètre carré. En fait, on vient mettre un écran rigide au-dessus de l'existant et au-dessus, donc c'est du FESCO, et au-dessus de cet écran rigide, on vient mettre un isolant et une nouvelle membrane d'étanchéité bicouche, en plus des 15 kilos au mètre carré qui représentent à peu près les plots et les modules. Voilà. Donc maintenant, on souhaitait faire un petit retour d'expérience un peu plus global pour vous parler en fait des points d'attention qui peuvent rendre un projet assez difficile. Donc en fait, de manière globale, on en relève quatre qui sont généralement à considérer dans les difficultés liées à un projet. Donc premièrement, on peut évoquer la lenteur administrative et l'impact que ça peut avoir sur la rentabilité. En effet, en fait, un projet photovoltaïque, il faut compter allez, en moyenne 8 mois à 1 an pour un chantier. Et en fait, il y a 1 mois de chantier vraiment. Donc en fait, le reste, ça va être l'attente de la déclaration préalable ou du permis de construire, de la demande de raccordement, etc. Et en fait, on est dans un contexte quand même de volatilité du prix de l'électricité et avec des changements très réguliers du tarif d'achat de revente. Donc, ce qui fait en fait que entre la préétude et la signature du projet, à cause de la durée de ces démarches administratives, justement, la rentabilité réelle du projet n'est plus forcément celle qui avait été donnée au client lors de l'offre initiale. Ensuite, il y a un deuxième point, donc en fait, c'est le fait que pour réaliser les projets, de manière générale, il faut quand même réaliser un audit qui est assez poussé pour faciliter la réalisation du chantier. Donc, il faut réussir à faire concorder plusieurs lots, donc l'électricien, la VRD, les études de sol, structure, couverture, enfin, etc., etc. Et en fait, il faut les échelonner selon un ordre précis. Et en fait, ça, c'est d'autant plus vrai pour la partie vraiment électrique, avec l'installation électrique existante, parce qu'en fait, il faut comprendre la distribution électrique du site, notamment lorsque la puissance de raccordement actuelle n'est pas suffisante, ou alors lorsqu'il y a de la haute tension dans le projet et qu'il y a un transformateur sur site, ou alors si on est en train de changer d'abonnement, l'abonnement du site pour mettre des bornes électriques, par exemple. Donc, je relaisse la parole à Ouda pour les derniers points d'attention.
Oui, sur les deux derniers points d'attention, il y a le sujet énergétique. J'en ai déjà parlé au début, mais il faut bien prendre en compte que, comme le photovoltaïque, c'est sur 20 ans, il faut vraiment avoir une connaissance et une curiosité en fait sur les prix de l'électricité et comment ils vont évoluer dans le temps, d'un côté. Et de l'autre côté, il faut quand même essayer de bien comprendre l'usage des bâtiments pour comprendre mieux comment également leurs consommations vont bouger avec le temps. Dans un contexte où nous sommes en train de mettre en place des actions de performance énergétique qui réduisent notamment les consommations liées au chauffage, à la climatisation, mais en même temps, nous sommes en train d'électrifier notre flotte, donc de faire un appel de puissance à certains moments de la journée assez important. L'idée, c'est de travailler vraiment main en main avec le client pour essayer d'établir avec lui le profil de sa consommation. On sait tous que le photovoltaïque, il est très dépendant des horaires. On n'a pas une électricité sur toute la journée, donc il faut vraiment bien prendre en compte à quel moment de la journée les consommations vont être concentrées. Et ce qui est intéressant, et qu'on a vu sur l'un de nos projets notamment, c'est que le client, parfois, il n'arrive pas à réaliser comment il pourrait améliorer ou mieux profiter du photovoltaïque. Et nous, notamment, on met un système de supervision. Et ce système de supervision permet de sensibiliser sur le fait que, notamment, parfois, on arrive au bureau à 7h30 du matin, on branche notre véhicule, alors que le photovoltaïque, il ne commence à produire qu'à partir de 9h. Et donc, est-ce que juste par le fait de savoir qu'on aurait pu décaler d'une heure et demie pour mieux profiter du photovoltaïque, ça ne nous permet pas d'avoir une meilleure sensibilité, des meilleures actions humaines qu'on pourrait tous mettre en place d'une façon très simple, par le fait que cette supervision va nous faire voir où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça pourrait être amélioré. Le deuxième sujet qui est assez important, notamment pour les grands groupes ou pour les gens qui ont plusieurs sites, c'est vraiment essayer d'établir d'une façon très pragmatique une feuille de route photovoltaïque. Dans le sens où, avant de dépenser beaucoup d'argent sur des études dans tous les sens, l'idée c'est d'essayer au travers d'études simples ou de ce que nous on appelle les pré-études de faisabilité, d'essayer de créer une feuille de route. Donc, notamment cette feuille de route, comment elle priorise les sites, elle se cale sur les travaux de rénovation des sites existants. Elle se cale sur les nouvelles constructions, bien évidemment. Et puis, on identifie les sites où le déploiement du PV sera, 1, nécessaire pour répondre à la réglementation, 2, facile, il ne nécessite pas de travaux supplémentaires, parce que soit c'est une toiture technique, soit c'est une toiture inclinée et on peut se positionner directement dessus. Les sites où le photovoltaïque est particulièrement avantageux parce que nous avons une grande surface et une grande consommation, notamment le projet que Corentin vient de vous présenter, les sites où il y a une vraie réduction énergétique nécessaire et qui nous permet notamment de gagner quelques notes énergétiques et qui nous permet potentiellement, financièrement, de financer des travaux d'ores et déjà identifiés. Des réfections toiture à cause des dégâts des eaux, la réalisation d'une toiture dans le cadre d'une extension. Voilà, tous ces sujets-là nous permettent de créer finalement une feuille de route et en fait de jalonner les travaux autour de cette feuille de route. Finalement, on vous a mis une dernière slide pour vous montrer que le photovoltaïque, c'est vraiment une solution pour chaque projet, notamment sur l'existant. L'existant est beaucoup plus complexe qu'un bâtiment neuf ou une ombrière. Mais donc, quand on est sur une toiture existante, il peut y avoir tout plein d'options. On peut venir se positionner sur l'ULST si c'est une toiture technique. On va venir notamment percer, mais d'une façon bien sécurisée, pour sécuriser l'étanchéité, quand on est sur une toiture en bac acier. Nous sommes en mesure de faire une refonte ou une reprise de l'étanchéité quand il y a déjà une étanchéité existante. Parfois, on peut construire des mezzanines. Il y a des travaux de désamiantage qui peuvent se coupler également avec donc désamiantage, refonte de la toiture et photovoltaïque. Donc en fait, on peut imaginer autant de scénarios qu'il y a de typologies de toitures et de sites. Et l'idée, c'est de comprendre chaque projet dans sa globalité pour pouvoir avoir une vision globale du prix que ça va coûter et du retour sur investissement de ces projets-là afin de les prioriser.
Merci beaucoup. Aux participants, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent dès à présent dans le chat pour notre temps de questions-réponses de fin. Jonathan et Maxime, je vous propose de prendre la suite. La parole est à vous.
Très bien, eh bien, bonjour. Alors, merci de nous accueillir pour ce webinaire. Je vais vous faire une brève présentation de l'entreprise, si vous voulez bien. Donc l'entreprise RV Thermique, entreprise de fluide, plus particulièrement donc électricité, CVC, en travaux, installation, maintenance. Depuis 2008, nous sommes mis sur les travaux d'installation et de maintenance de centrales photovoltaïques. La majorité de nos clients donc, sont des industriels, agriculteurs et acteurs du secteur tertiaire. Voilà, on est répartis sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on a un maillage national. À la fin de l'année 2023, on aura installé 15 MW crêtes, ce qui représente à peu près 70 000 m² de panneaux. Ces installations nous ont permis d'éviter les émissions de près de 7 875 tonnes de CO2 chaque année. Deuxièmement, donc moi, Jonathan Lusineau, je suis le manager d'activité de la structure photovoltaïque de Tours, qui est la structure principale photovoltaïque. Nous avons aussi des structures photovoltaïques dans diverses autres agences françaises.
Et Maxime Pain, chef de projet.
RV Thermique, pour information, donc c'est 2700 collaborateurs, 75 agences en France et 468 millions de chiffres d'affaires. Alors, il va y avoir sûrement des redondances, je m'en excuse, entre ce qui a été évoqué précédemment. Là, c'était rapidement pour vous montrer la différence sur l'injection totale et l'autoconsommation, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. L'injection totale, la centrale, en réalité, est la même. La différence, c'est qu'on est vraiment séparé du réseau. On ne passe pas par le TGBT et le point de comptage du client. Enedis viendra mettre un point de comptage pour l'installation, afin de désolidariser. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'autoconsommation. Donc, c'est le deuxième schéma que vous voyez. Donc, c'est une centrale solaire qui peut être sur ombrière, sur toiture ou au sol, qui est raccordé à un onduleur qui convertira l'énergie continue en alternatif, en passant par une supervision pour que vous puissiez suivre la production de votre station, votre centrale, relié à votre armoire tableau électrique pour passer par votre comptage et repartir sur le réseau pour la partie revente du surplus si vous ne consommez pas la totalité de votre production. On a choisi de vous présenter un projet, donc c'est un industriel qui est basé à Neuilly-et-Pompierre, donc c'est en Touraine. C'est un industriel fabricant de produits plastiques. Il avait donc des besoins d'énergie. Il a fait une extension sur un bâtiment existant. Donc l'extension faisait 1400 m². Il avait une obligation de solarisation de 30%. Il souhaitait être accompagné sur toute la partie études-réalisation. Donc avoir un service qu'on appelle clé en main dans nos métiers. Et là, je vais passer la parole à Maxime Pain, qui va vous détailler un petit peu le chemin fait par ce client avec nous.
Merci, Jonathan. Donc, une étude photovoltaïque, avant de voir le jour, il faut le dimensionner. Et il faut le dimensionner correctement. Donc, ça passe par l'étude de faisabilité de l'implantation de la centrale. Donc, isolation compatible, charpente qui peut tenir le poids du photovoltaïque. Voilà. Ensuite, il y a l'étude du profil de consommation. Donc, c'est-à-dire, comment, quel est le profil de consommation du client? Est-ce qu'il travaille en 3-8? Est-ce qu'il travaille toute la semaine, uniquement les jours ouvrés? Voilà. Il y a l'analyse du prix du kilowattheure pour savoir quelle économie on va apporter au client. Et à la suite de ça, on peut faire un dimensionnement. La corrélation entre le profil de consommation et le dimensionnement va donner une étude, va nous donner un rapport d'étude d'impact énergétique sur la consommation. Et indirectement, on va pouvoir présenter un retour sur investissement. Donc sur ce projet, on a projeté 131 kW crête, donc ce qui correspond à une production de 145 MWh par an. Nous avons pris des panneaux de marque Jinko Solar, d'une puissance de 445 watts crête. Pour information, Jinko Solar est une marque chinoise qui fait partie du top tiers mondial du classement Bloomberg. Ce classement permet l'analyse de la bancabilité d'un fabricant de panneaux. Donc, nous, RV Thermique, on a pris le choix de travailler avec les 3-4 top tiers de ce classement. Donc, Jinko, Longisolar, Trina Solar, voilà à peu près la triplette de panneaux qu'on utilise. En termes de fixation, donc, nous avons utilisé Sopra Solar. Donc, ce sont des plots thermosoudés à l'étanchéité, c'est-à-dire qu'on ne vient pas percer l'étanchéité et donc aucun dégât sur la membrane d'étanchéité. Et pour l'onduleur, donc, un élément très important qui va permettre de convertir l'énergie continue en énergie alternative, on a pris la marque SMA. Donc SMA est une marque allemande qui est connue et reconnue sur le marché du photovoltaïque. Donc comme je vous le disais, on commence par l'analyse du profil de consommation. Donc nous, on vient demander au client de collecter ce qu'on appelle nous le top 10 minutes. Donc c'est un fichier qui vient recenser les puissances appelées toutes les 10 minutes sur un an, ce qui nous permet d'établir un profil de consommation au plus juste, comme vous pouvez le voir donc du coup sur les trois courbes de droite en fonction des saisons. Et donc on peut voir que par exemple le samedi et le dimanche, ils ont pas ou peu de consommation, ils ont uniquement le talon énergétique. Donc là par exemple pour ce projet-là, la revente elle va s'effectuer majoritairement le week-end, principalement le dimanche même. Donc, à la suite de l'analyse des factures, de la consommation et du dimensionnement, on extrait un rapport d'autoconsommation. Donc, ce rapport, qu'est-ce qu'il indique? Il indique, donc, sur l'image de gauche, la première colonne, taux d'autoconsommation 81%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 81% de la production sera autoconsommée par le bâtiment. Et donc, les 18,7% restants seront réinjectés sur le réseau le samedi et le dimanche. Donc les 81% qui seront autoconsommés correspondra à une autosuffisance de 26%. Sur la droite, on peut voir un peu plus en détail la production annuelle avec la répartition d'autoconsommation et d'injection. Et on voit bien que l'injection se fait principalement en été puisque, comme vous l'avez vu sur le profil juste avant, ils avaient beaucoup plus de consommation en été qu'en hiver. Excusez-moi.
La mission que vous a présentée, donc ça c'est encore le cas concret sur lequel on fait la présentation. C'est un ROI. C'est le ROI en fait de ce projet-là. Donc un ROI, ça se prend. Alors nous présentons de cette façon-là. Comme on dit tout à l'heure, nos confrères, on présente souvent le ROI sur 20 ans puisque l'obligation d'achat de DFOA, qui est l'entité qui rachète le surplus d'énergie non consommés, sont des contrats de 20 ans. Donc, vous avez un tableau à colonnes. Ce tableau à colonnes, la première colonne, vous avez donc les années de 1 à 20. La deuxième colonne, vous avez la puissance photovoltaïque qui est produite. Vous remarquez que cette puissance est dégressive puisque, effectivement, vos panneaux, dans le temps, vont produire un petit peu moins chaque année. La vétusté des panneaux font que les cellules sont un petit peu moins performantes les années passantes. Donc, vous avez une dégressivité qui est calculée par les logiciels. Ensuite, vous avez donc le nombre de kilowattheures qui est produit et consommé. Donc, on voit que le client, là, consommera 114 550 kilowattheures par an, ce qui vous donnera le prix du kilowattheure. Alors, pardon, excusez-moi. Ensuite, vous avez le prix du kilowattheure. Donc, ça, c'est un client qui nous avait, en prenant son profil de consommation, avait un prix d'achat moyen de 31 centimes, ce qui est un prix qui est quand même assez élevé. Pour le coup, il nous avait informé que l'année suivante, il renégocierait son contrat d'achat d'énergie aux alentours de 20 centimes. C'est pour ça que la première année, on est sur un prix kilowattheure à 31 centimes, donc c'est son coût de contrat EDF, hein, s'il est chez EDF. Et la deuxième année, ensuite 20 centimes. Vous voyez une augmentation annuelle de ce prix-là tous les ans, descendant jusqu'à 20 ans. Cette augmentation, c'est ce qui nous est donné par la CRE. C'est une augmentation prévue de 3% du prix de l'énergie en France. C'est pour ça que le montant augmente. La colonne suivante, électricité économisée, ce sera donc le coût de, en moins sur sa facture annuelle, pour être très clair. Hein, voilà, aujourd'hui, sur les 114 555 kWh qu'il ne consommera pas par an, multiplié par le prix de son kilowattheure, ben, ça vous donne une économie. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans cette colonne-là. Ensuite, vous avez les kilowattheures non consommés. C'est ces fameux 18,7% qui n'étaient pas autoconsommés, donc revendus, donc qui apparaissent dans cette colonne, donc les 23 761. Et le revenu de revente. Alors, le revenu de revente, c'est, on vous l'indiquait en dessous, c'est le tarif de rachat EDFOA. Pour ce client, c'était sur le premier trimestre 2023, qui était de 13 centimes. Donc, ce qui vous donne ce montant-là. Et le total des gains, donc le total des gains, bah, c'est tout simplement le cumul de l'économie plus du gain de la revente. Donc on voit que la première année, il fait un produit de 39 000 euros, puis 27 000, etc. Ensuite, on vous a mis les charges indexées. Alors les charges indexées, on vous décrit brièvement ce que sont les charges indexées pour une centrale solaire. Vous avez de la maintenance. Alors, pour rappel, la maintenance est obligatoire sur les centrales solaires. Voilà, donc il y a des frais pour cette maintenance. Vous avez ensuite la taxe, la TURP, la taxe IFER et l'assurance. Votre assureur vous demandera aussi un complément pour assurer votre centrale sur votre bâtiment ou en ombrière. Hein. Vous aurez tout de même une assurance à porter. Voilà. Et ensuite, on a mis l'annuité de financement. Alors, l'annuité de financement, on la calcule sur un taux de prêt, donc sur 15 ans à 4,70%. Pourquoi 4,70%? Travaillant avec plusieurs organismes bancaires, on sait que c'est le taux maximum auquel vous pourrait emprunter, puisqu'en général, on est un petit peu en dessous, mais en mettant ces montants-là, on est sûr que le ROI soit plutôt fidèle sur les montants d'emprunt. Et vous avez donc la trésorerie nette qui est générée. Donc, c'est tout simplement le total des gains, moins les charges, moins l'annuité de financement. Donc, vous le voyez, hein, à partir de 15 ans, il n'y a plus de prêt en face. Et sur les 15 premières années, vous avez un ROI qui est tout de même largement positif. On a donc sur 20 ans, un investissement de 156 000 euros pour un gain de 496 472 euros. Sur le slide suivant, c'est en fait le même ROI, et c'est d'ailleurs la solution qui a été retenue par ce client-là, c'est qu'il a souhaité le faire sur ses fonds propres et ne pas emprunter. Donc hors emprunt, le coût réel était de 110 550 euros. Donc, c'est pour ça que vous avez uniquement une annuité de financement en réalité la première année, puisqu'il a donc n'est pas passé par un organisme de financement. Et vous avez donc un retour sur investissement sur 20 ans de 542 462 euros. Là, vous avez en fait le point de bascule du retour sur investissement. Donc, on voit que c'est à la quatrième année sur ce projet-là que le retour sur investissement s'est fait et est devenu positif, même s'il avait une trésorerie annuelle positive tout de même. Alors, la petite spécificité, c'est qu'on était sur un profil d'un client qui achetait quand même assez cher son énergie, hein, 30 centimes du kilowattheure. Aujourd'hui, en moyenne, pour les... Alors, c'est assez variable selon les contrats, les gros consommateurs ou pas. On est plutôt entre 15 à 25, 15 à 22 d'ailleurs, centimes du kilowattheure. Et l'autre sujet aussi, c'est le coût de rachat de DFOA. Je vous en reparlerai un petit peu après. Là, sur ce projet-là, c'était à 13 centimes puisque c'était sur le premier trimestre 2023. Pour information, aujourd'hui, par exemple, à l'instant T, sur le trimestre en cours, on est à 11 centimes 20. Donc, on voit que les coûts d'achat du surplus sont aussi à la baisse, ne sont pas amenés à remonter. Donc, on est plutôt aujourd'hui sur un point de bascule entre 7 à 10 ans. Même si on sort toujours de trésorerie nette annuelle, le point de bascule, c'est plutôt de 7 à 10 ans en ce moment sur les installs. On vous a présenté également le planning. Alors, c'est un planning qui est un petit peu type, mais qui correspond dans les grandes lignes à ce projet-là d'ailleurs et aux autres projets. Hein. Un projet photovoltaïque, ça dure à peu près 9 mois, 9 mois à 1 an, plutôt 1 an pour l'ombrière et plutôt 9 mois pour de la toiture. On se rend compte qu'en réalité, entre la date de commande et la réception, il y a une grande partie qui sont les délais administratifs. C'est-à-dire que vous avez l'émission d'architecte, DP ou permis de construire pour ombrière, sinon DP pour les toitures. Il y a toutes les parties études et conventions Enedis, prestataires du réseau. Il faut savoir que quand on monte un dossier photovoltaïque, il y a quand même une très grosse partie d'accompagnement sur cette partie administrative. Il y a tout un dossier à monter auprès d'Enedis pour leur avoir leur accord, comme quoi on fera bien de la réinjection sur leur réseau. plus vous allez monter une station centrale importante, plus vous allez avoir des coûts associés à Enedis qui sont inconnus au moment où en fait on lance le projet, ce qui est un petit peu, on en parlera aussi tout à l'heure. Voilà, donc il y a tout un sujet en fait sur cet accompagnement administratif à avoir avec l'entreprise avec laquelle les clients souhaitent se faire accompagner. Donc ça, on arrive donc du premier jusqu'au cinquième mois, on est vraiment sur des parties d'études et d'accompagnement administratif et de complétude de dossier administratif. Le sixième mois, on est sur un démarrage de travaux, donc protection de chantier, réalisation des fondations quand on est avec des ombrières, pour tout ce qui est toiture. Après, on va être sur installation des moyens de levage, des moyens d'accès, protection, parce qu'on a beaucoup de chantiers où les accès sont pas sécurisés, notamment pour le travail en hauteur. Donc, il y a aussi tout un sujet sur la protection des bâtiments et des travailleurs. Et du septième au neuvième mois, on est sur l'installation, pose des panneaux. Donc, on voit qu'en réalité, sur 9 mois de projet, il y a 3 mois de chantier et 6 mois. Donc, on est sur deux tiers d'admin, administratif, pardon, et d'études pour un tiers de travaux réels. Donc jusqu'à la fin du chantier qui est le consuel, mise en service et S21 si vous avez une installation de plus de 100 kg. On a refait donc le dernier petit chapitre, c'est ce qu'il faut savoir. Donc on va d'abord vous parler des contraintes en réalité de l'installation. Donc ça va effectivement, ça revient un petit peu sur ce qui a été dit précédemment. Les 4 gros contraintes que nous on a identifiées depuis qu'on travaille dans ce domaine, c'est l'inconnu des coûts de raccordement du réseau. C'est une des questions qui revient souvent de la part des clients. C'est qu'en fait, il y a 2 inconnus. C'est les coûts de raccordement annoncés par Enedis et les coûts de rachat du kilowattheure. C'est-à-dire qu'en fait, quand on aura le prix réel d'Enedis, qu'on appelle la PTF, c'est la proposition technique financière qu'Enedis remet en fait au client quand on montrera ce dossier. C'est-à-dire qu'il a déjà contracté avec l'entreprise pour qu'on avance sur un dossier, qu'on monte un dossier avec Enedis. C'est à ce moment-là qu'ils nous donneront le coût de raccordement. Ce coût de raccordement, en réalité, il est vu en fonction de l'état du réseau, de la vétusté du réseau, du nombre de personnes qui sont sur ce réseau et de la puissance que vous voulez injecter sur leur réseau. Plus vous allez monter une puissance importante, notamment au-dessus de 250 kVA, ce qui représente à peu près 330 kW crête, plus les coûts seront importants avec des délestages, etc. En moyenne, en dessous de 250 kVA, ça va de 2 000 à 10 000 euros. Mais on n'a pas connaissance de ces coûts, donc c'est toujours un peu compliqué, c'est vrai, d'engager des travaux et d'engager des fonds sur des études en disant, voilà, on n'est pas capable de vous dire, avant le retour d'Enedis, le montant qui va ressortir de ça. Le deuxième point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le rachat EDFOA, c'est-à-dire que le coût de rachat de votre vente, du surplus, en fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas parce qu'en réalité, nous, on a toujours le trimestre en cours publié par la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui nous donne le trimestre en cours. Et les trimestres suivants sont calculés avec différents indices. Il faut savoir que quand vous êtes racheté par EDFOA, très souvent, vous êtes racheté à ce qu'on appelle le T0 plus 6 mois. T0, c'est le moment où vous avez un dossier complet Enedis. Et le plus 6 mois, c'est le moment où après, vous réceptionnez. Et il se passe au moins 6 mois entre le moment où vous avez un dossier complet et le moment où on réceptionne le chantier et qu'on a une mise en service Enedis. Et c'est à ce moment-là que vous avez le prix. Et c'est là que parfois, il y a aussi cette deuxième inconnue tarifaire, financière qui fait que ça peut être aussi un frein parce que si on a une vraie recherche de ROI et qu'on a une revente qui est importante parce que on a peut-être une activité qui va moins autoconsommer parce qu'on va beaucoup travailler le soir, on va beaucoup travailler plutôt en hiver sur notamment du chauffage et donc qui est pas forcément uniquement sur une courbe de production plutôt d'été de solaire et de journée. Donc si on a une grosse partie de revente, ça peut être aussi une inquiétude. Le troisième contrainte peut être un frein aussi, c'est les délais administratifs. C'est vrai que les délais font que parfois ça peut décourager un petit peu. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand vous avez toute une partie administrative de longueur de lenteur, ça s'est un peu arrangé. Il y a encore 2 ans, il faut savoir que c'était plus de 6 mois pour avoir un retour des concessionnaires. C'était pas de leur faute, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait des demandes et les personnels dédiés à ces réponses, c'est pas extensible. Donc voilà, on avait parfois 6 mois, 8 mois à expliquer à des clients que les dossiers sont complets mais qu'on n'a pas de retour. Ça peut être un peu frustrant pour des personnes qui engagent des fonds, qui communiquent sur le fait qu'ils veulent faire du solaire, qui préparent leurs équipes et l'entreprise sur le fait qu'ils vont avoir du solaire sur le bâtiment et qu'il se passe rien pendant plusieurs mois. Le dernier point, c'est les contraintes techniques sur les bâtiments et terrains existants. Donc, comme ont très bien expliqué tout à l'heure nos confrères, vous avez plusieurs contraintes liées à l'installation de solaire. Ça peut être de l'amiante qui est présente, ça peut être des charpentes qui sont non dimensionnées pour recevoir à peu près 15 décanewtons, ce qui fait 15 km² sur une charpente lorsque vous mettez du solaire. Les étanchéités qui sont soit trop vétustes, soit pas à même de les recevoir, donc c'est des coûts supplémentaires. Les isolants qui doivent être ce qu'on appelle de classe C, c'est l'indice de compressibilité de votre isolant pour pas que le poids d'une centrale solaire le détériore. Et après, il y a tout ce qui est la sécurité incendie, la VRD, etc. Et puis il y a des bâtiments comme des bâtiments des ERP, des bâtiments ICPE, ces bâtiments-là peuvent demander des installations solaires avec des coupures, des optimiseurs. Enfin voilà, il y a plusieurs sujets qui peuvent faire que c'est pas uniquement d'arriver et dire voilà, j'ai un toit, j'ai 1000 mètres carrés à dispo, je mets des panneaux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par les entreprises comme celle du CERS, hein, qui sont toutes des entreprises qui sont qualifiées, qui sont experts en fait dans ce domaine-là. Voilà, voilà pour les contraintes. Pour la partie avantages, heureusement il y en a, il y a quand même pas mal d'avantages. Je pense que le premier, un des principaux, je pense réellement, c'est que le photovoltaïque par rapport à la somme d'investissement, c'est un type de travaux qui a un impact hyper important vraiment sur la réduction des émissions de carbone. Voilà, donc on voit tout de suite quand même que l'impact de la réduction des émissions comparé au montant de travaux investis, quand on le compare à d'autres typologies de travaux, il y a un impact qui est quand même réel. Le deuxième point, c'est la durabilité. Une installation de panneaux solaires, c'est garanti 20 ans, ça fonctionne quand même plus, heureusement. Alors oui, il faut la maintenir, oui, il faut l'entretenir, mais comme toute structure et tout bâtiment. Mais on a des choses qui sont quand même durables, des produits qui sont durables dans le temps. Et ça nous permet également, ça permet aux clients également d'avancer sur la conformité réglementaire. Donc par ça, on entend le décret tertiaire. On entend voilà toute cette transition écologique sur laquelle la plupart des clients sont moteurs et souhaitent y aller, soit par conviction, soit par obligation parfois. Dans tous les cas, on sait que faire du solaire aujourd'hui, ça permet de s'inscrire dans cette transition et de se mettre conforme par rapport à toute cette réglementation qui évolue, qui continue d'évoluer, que ce soit sur les bâtiments existants ou sur la création. Le deuxième point, c'est l'adaptabilité et la scalabilité, dans le sens où aujourd'hui, l'avantage aussi du solaire, c'est que vous pouvez moduler votre installation. Vous pouvez très bien installer 100 kg sur une toiture et la coupler dans 2 ou 3 ans parce que vous avez une flotte de véhicules électriques qui arrive, parce que vous avez des besoins qui sont croissants. Vous pouvez ensuite la coupler avec des ombrières ou, si vous avez encore de la toiture qui est disponible, agrandir cette centrale avec d'autres onduleurs en la remettant sur la même supervision. Enfin voilà, il y a la possibilité en fait d'agrandir et de faire coller l'installation actuelle avec une installation future. Et ce côté modulable permet d'avoir une souplesse aussi. Peut-être d'avancer par tranche, parfois c'est intéressant aussi de se dire, on fait peut-être pas tout de suite, on commence, on regarde les impacts que ça a, et surtout si on a des projets d'évolution d'entreprise, les inscrire dans un second temps pour augmenter sa puissance de production. L'amélioration de la résilience énergétique, ça a été effectivement évoqué tout à l'heure, c'est le fait que c'est un réel avantage de pouvoir produire sa propre énergie. Alors en totalité, c'est toujours très compliqué, mais au moins d'arriver à avoir une partie d'autoconsommation, ce qui permet de s'affranchir du réseau et d'être moins dépendant des variations du prix de l'énergie. Toutes les entreprises qui ont vécu il y a 3 ans, 4 ans, là, la montée en flèche du prix de l'énergie, c'était très compliqué pour certains. Ça a franchement pas été simple. On a travaillé avec pas mal d'entreprises qui ont eu des vrais sujets en fait par rapport à ce prix de l'énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être de moins en moins dépendant ou le moins possible entre guillemets, même si on sera forcément toujours, mais le moins diminuer en fait l'impact de ces variations, ça a un côté quand même tranquillisant. Ça permet de pouvoir voir un petit peu sur le long terme et ça valorise aussi vos bâtiments. L'autre point, c'est la valorisation de l'image de marque. C'est vrai que dans la politique RSE, c'est important pour une entreprise. Très souvent, les entreprises qui font du solaire communiquent dessus. Vous avez tous vu des entreprises qui font du solaire qui communiquent sur les réseaux où on est toujours ravi d'afficher qu'on a, et c'est normal, et c'est très bien d'ailleurs, on a des ombrières sur nos parkings ou des panneaux sur nos bâtiments. Je pense qu'en termes d'image et de marque, c'est un vrai engagement de la part d'une entreprise de partir sur du solaire. Et les deux derniers points, c'est les facilités de financement, qui découle d'ailleurs de la rentabilité du solaire. La facilité de financement, aujourd'hui, il faut savoir que les banques sont les organismes de financement, plus largement, poussent vraiment les clients vers le solaire. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir en sortant d'entretien avec leurs banquiers et qui leur proposent en fait d'eux-mêmes de partir sur du solaire en se faisant accompagner alors d'entreprises forcément qualifiées. C'est une des conditions, hein, c'est qu'on ne part pas, ils financent pas avec n'importe qui. Mais il y a aujourd'hui vraiment une vraie volonté des organismes de financement traditionnels, donc bancaires, plutôt d'aider leurs clients sur cette transition, notamment via le solaire, au vu des contrats de rachat sur 20 ans d'EDF, du prix de l'énergie aujourd'hui, et de ce côté sécurisant qu'ont ces investissements-là. Donc c'est vrai que c'est toujours plus simple en fait à engager un projet quand vous avez un financeur qui vous suit et qui vous engage même à le faire, que d'aller essayer de convaincre un financeur que les investissements sont judicieux. Voilà. J'espère qu'on a été clair. Sur le dernier slide, vous avez nos contacts. Si jamais vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas.
Merci pour votre intervention. Je crois que Myriam avait une ou deux questions. Effectivement, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions ou à lever la main si vous avez des questions pour nos intervenants. On a eu des présentations qui étaient très riches.
Oui, moi j'avais plusieurs questions en effet, merci beaucoup. Pour en commencer par une, je ne sais pas si c'est la plus adaptée, la première qui vient en tête, mais vous parlez, et j'aimerais bien avoir vos deux retours du coup sur cette question, par rapport au rachat de la production qui n'est pas consommée, est-ce que, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, est-ce que c'est par rapport au prix, c'est fixé, c'est déterminé trimestre par trimestre, ou est-ce que c'est effectivement par contrat fixé sur 20 ans et on peut se projeter sur cette partie qui n'est pas consommée?
En fait, le contrat, c'est un prix fixe sur 20 ans. C'est pour ça qu'on parlait du côté sécurisant, en fait, aussi pour les organismes financeurs. C'est qu'en fait, le contrat, le montant de rachat, il est bloqué sur 20 ans. Alors, vous avez d'autres organismes que des FOA qui vous proposent des achats flex avec des montants qui peuvent être plus hauts, mais sur des délais beaucoup plus courts. Et là, il y a un côté plus risqué. On peut vous racheter sur 3 ans à des montants plus hauts. Mais par contre, au bout de 3 ans, ils renégocient. Donc, c'est pour ça que la plupart des installations, on va les faire plutôt, notamment d'ailleurs entre 100 et 500 kilos. De toute façon, c'est souvent 99% du temps sur du EDFOA. Donc, c'est un montant qui est établi sur ce fameux T0 plus 6 mois qui donne un coût sur ce trimestre, sur ce coût-là. Et c'est un coût qui est fixe pour 20 ans. Et au bout de 20 ans, bah, vous pouvez renégocier et redemander un nouveau contrat en instruisant un nouveau dossier auprès de EDFOA.
Et les prix de rachat, par contre, évoluent trimestre par trimestre. Mais à partir du moment où notre contrat il est fixé sur 20 ans, effectivement, comme vous le disiez, premier trimestre 2023, on était à 13 centimes. Quand aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 11 centimes.
Oui, c'est ça. C'est 11-20, je crois, sur 11-20, ouais, sur ce trimestre.
Est-ce que c'est un marché qui évolue significativement? Du coup, c'est ces organismes qui proposent des offres de rachat à plus court terme?
Alors, il y en a. Et pour être honnête, nous, on travaille pas peu avec eux, donc on sait que ça existe, on sait qu'il y a des organismes qui essayent de proposer, parce qu'en fait ça reste des placements en réalité, de faire du rachat d'énergie, de les revendre à côté, eux ils le revendent après en fait à des concessionnaires, donc c'est des organismes qui existent. Après
honnêtement, quand on peut passer par EDF obligation d'achat, c'est beaucoup plus intéressant pour deux grandes raisons. La première, c'est la partie sécuritaire, c'est le fait qu'on connaît le prix sur 20 ans. Et en fait, ça rassure aussi beaucoup les banques parce que c'est aussi EDFOA qui nous rachète. Donc, il y a très peu de risques aussi d'impayé ou le fait qu'il n'existe plus. Hein. Le deuxième sujet, c'est que, en fait, il faut prendre ce rachat de surplus comme étant une aide incitative. Dans le sens où c'est quand même assez compliqué de trouver quelque chose de plus intéressant sur le long terme parce que c'est comme ça qu'on est en train d'aider à la présence du photovoltaïque. Après, si on ne peut pas utiliser EDF obligation d'achat, parce que quand on dépasse le seuil de 500 kW crête, on ne peut pas l'utiliser, dans ce cas de figure, il y a deux options. La première, c'est en fait essayer de vendre au travers de contrats d'un an, de deux ans, de trois ans. Mais il y a également certaines entreprises ou sociétés qui ont un autre business plan et qui sont de se dire on vous met sur la bourse d'électricité et on vous prend au passage 3, 4, 5%. Donc en fait, là, on va être plutôt sur le prix du marché spot de l'électricité. Après, il y a plusieurs formules. La formule de on fait ça en live et en fait, ça bouge tout le temps, ou on fait des contrats vraiment assez court-termistes pour qu'ils essayent de sécuriser un tout petit peu plus. En fait, c'est toujours moins intéressant que de passer par EDF obligation d'achat quand on peut passer par.
Entendu. Merci beaucoup. Par rapport aux solutions pour financer effectivement l'investissement dans une toiture, des ombrières, etc., il y a du coup les fonds propres, il y a les banques, d'autres organismes de financement, et des solutions type les PPA, etc. Est-ce que vous pourriez développer?
Alors effectivement, la troisième option qui n'est ni bancaire ni fonds propres, c'est de passer par les développeurs. Les développeurs qui, jusqu'à il y a 3-4 ans, ils étaient plutôt positionnés sur la revente totale, dans le sens où ils récupéraient la location d'une toiture en donnant en contrepartie soit un loyer, soit une rénovation. Et puis, ils prenaient cette électricité produite et ils la revendaient eux-mêmes à quelqu'un, à EDF ou à quelqu'un d'autre. Ou bien ils la prenaient pour eux-mêmes parce qu'eux, ils sont en même temps producteurs et revendeurs ou distributeurs. Aujourd'hui, avec l'intérêt de plus en plus important de l'autoconsommation et de la consommation d'une électricité verte par certaines entreprises, les développeurs se sont positionnés également sur des contrats du type PPA, dans le sens où ils vont produire une électricité et puis ils vont la vendre soit au même client qui leur a donné le foncier, soit à un autre client à côté, à un tarif fixe. Après, il y a des modalités contradictoires différentes d'un contrat à l'autre, mais l'idée, c'est de s'engager sur un volume d'électricité qu'ils vont donner à ce client qui consomme, à un prix de l'électron qu'ils vont donner, et puis il faut ajouter à ça les différentes taxations possibles là-dessus. Donc en fait, c'est on met en place un foncier, en contrepartie, quelqu'un s'occupe du montage, de l'installation, des risques et tout ça, et il nous redonne un bout d'électricité verte, un volume, c'est pas un bout, c'est un volume assez important, à un prix fixe. Après, bien évidemment, ce volume, il peut être horaire ou pas, dans le sens où on s'engage à donner à ces heures-là ou pas, et le prix peut être fixé ou indexé ou pas. Donc après, ça reste des négociations entre le producteur et celui qui consomme.
Jonathan, vous souhaitez compléter ou c'est ça vous convient comme...
Non, ça me convient. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets sur le financement du photovoltaïque. Notamment, typiquement, on avait reçu la BPI qui était venue, BPI France, qui était venue aussi, qui est une banque publique d'investissement, qui accompagne les entreprises dans la transition énergétique avec des prêts verts et qui permettent aussi de faire ce qu'on appelle des prêts non affectés dans des cadres de programmes quand vous faites des travaux énergétiques. Dans le sens où quand vous allez faire des prêts à la banque, classique, que vous faites un prêt pour la réalisation des travaux. Parfois, il va y avoir d'autres sujets autour. Ça peut être sur des grosses installes, le souhait de mettre des bornes. Enfin, il y a d'autres sujets qui peuvent parfois où les banques ont moins envie d'y aller. Et la BPI, qui est donc une banque publique d'État, elle peut par exemple faire ce qu'on appelle des prêts non affectés, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord sur une somme qui ne dépassera pas 50% du montant prêté par une banque classique, qui est un prêt qui ne sera pas affecté. Vous pourrez techniquement l'utiliser comme vous voulez. Idéalement dans la transition, mais ça peut être pour recruter des équipes, pour gérer des centrales, ça peut être, enfin voilà. Il y a tout un sujet aussi. Le sujet financement est vraiment un vaste sujet dans nos métiers, parce qu'il y a quand même pas mal d'options. Quand on a une démarche où on cherche peut-être aussi des leviers de financement, des leviers d'aide, des choses comme ça, les audits peuvent vous aider, parce que souvent, nous on a BSE, par exemple, Chervet Thermique, qui fait ça, qui est l'entité qui réalise l'accompagnement à la transition énergétique et d'audit, travaille beaucoup avec le secteur médical notamment. Ben, en fait, voilà, ils vont essayer de trouver et de chercher avec eux les meilleurs montages et formules possibles pour arriver à faire sortir de terre les projets. Et le financement fait quand même partie, très souvent... d'un des leviers ou des freins pour avancer sur des projets sur la transition énergétique.
Exactement, en fait, c'est ce qu'on rencontre, nous, pas mal. Effectivement, on est assez présent sur la partie financement. En fait, pour pouvoir monter un dossier de financement, il faut quand même avancer un peu sur les études. Aujourd'hui, les banques ne vont pas accéder... En fait, quand ils financent un client, sa santé financière, mais également un actif. Un actif qu'ils savent va générer des revenus. Donc, en fait, il faut sécuriser le fait que cet actif-là va générer les flux qu'il doit générer. Donc, qu'on est engagé assez pour savoir que l'assurance va assurer, pour savoir qu'est-ce qu'on va produire d'une façon assez cohérente. L'idée, c'est pas non plus de vendre du rêve si la production ne va pas suivre. Qu'il y ait des engagements sur des contrats de maintenance, que dans nos business plans, on ait pris des parades à certains risques de non-production ou de maintenance. Donc voilà, quand on est en train de créer un dossier de financement, comme chacun d'entre nous finance chez lui son appartement ou des choses comme ça, il y a des sujets assurantiels, il y a des sujets de... Il faut sécuriser l'actif en lui-même et en plus, il faut sécuriser la santé financière.
J'ajouterais même que ce qui est d'ailleurs intéressant, nous, effectivement, on est référencé par plusieurs banques pour faire des installations sur lesquelles ils suivent sur du financement. Ils financent le client en direct, après chez nous, mais c'est un prêt qui est contracté par le client. Mais il y a des sécurités, notamment sur l'étude et la qualité de l'étude. Le fait que on essaye de prendre des marges de sécurité quand on a un logiciel qui nous donne un productible, on dégrade volontairement ce productible d'un certain pourcentage parce qu'il peut y avoir des pannes ponctuelles dans une année. L'idée, effectivement, c'est de donner des ROI. Quand vous présentez un ROI à la banque, il faut qu'il soit le plus proche réel possible. Aujourd'hui, le but, c'est que vous puissiez afficher la supervision au bout d'un an et qu'elle colle, c'est qu'elle soit soit dans ce qu'on avait prévu, soit au-dessus. Si jamais elle est en dessous, forcément, assez rapidement, on se rend compte que on peut mettre des personnes dans des situations compliquées. On peut avoir aussi des banques qui expliquent que c'est pas ce qui était attendu. Donc voilà, l'idée, c'est que les études soient les plus proches du réel possible, voire parfois un peu pessimistes, pour être sûr que qu'on n'engage ni des clients ni des banques dans une aventure qui n'est pas celle qu'on a présentée.
Merci. J'ai deux questions. La première, c'est, ou plutôt trois, je vous les adresse, vous répondez comme vous le souhaitez. La première, c'est dans quelle mesure vous, pour aider, accompagner du coup sur l'autoconsommation, vous intégrez les recommandations de sobriété énergétique, donc là, ou même de performance énergétique, pour définir, dessiner le profil sur les 20 années qui suivent, profil de consommation du bâtiment ou de l'entreprise. Sur cette question, comment vous accompagnez sur la consommation? Comment vous intégrez les risques physiques liés au changement climatique sur les 20 années qui viennent, effectivement, si c'est la période sur laquelle vous projetez? Et enfin, en termes de projection, c'est la question des flottes. Comment vous intégrez les flottes? Quels sont les systèmes que vous trouvez avec le lien entre panneaux photovoltaïques et flottes de véhicules électrification?
Alors, dans votre question, il y a plusieurs petites questions, et c'est ce dont je parlais, que en fait, il faut avoir des compétences vraiment en projection électrique. Donc nous, je vais juste séparer les différents sujets. Le premier, c'est quand on a un bâtiment neuf. Là, c'est le sujet est assez complexe parce qu'on ne sait pas d'où on part. Dans le sens où c'est un bâtiment neuf, on n'a pas un historique de consommation, donc il faut prendre des hypothèses. Et en fait, sur ces sujets-là, on va se baser sur la RT 2012 ou la RE 2020 pour essayer de faire nos simulations par zone géographique pour tout ce qui est coque du bâtiment. Donc en fait, tout ce qui représente le chauffage, la climatisation, tout ce qui est bureautique, éclairage. Par contre, pour tout ce qui est process, dans le sens où dans ce bâtiment, il y a des gens qui y sont et qui étaient déjà probablement quelque part par ailleurs et qu'ils ont certaines machines qui font travailler sur une journée. Et dans ce cas de figure-là, on va reprendre le process comme il est, soit en ajoutant en enlevant s'il y a une machine en plus ou une machine en moins pour faire la globalité des consommations. Donc concrètement, on sépare process industriel versus coque du bâtiment. Sur la coque du bâtiment, si on a des données historiques, on va prendre les données historiques et puis on va raisonner action performance énergétique par action performance énergétique pour faire l'addition ou la soustraction. Quand on a un process, on va reprendre le process et puis on va voir comment, en discutant avec le client, comment ça va évoluer avec le temps. Et puis on va le faire sur heure par heure concrètement, parce que vu que le solaire impacte les heures, c'est comme ça qu'on va raisonner. Par rapport à la flotte électrique, sur la partie flotte électrique, la plupart du temps, on a en face de nous des clients qui ont une feuille de route qui n'est pas encore complètement déployée, et en fait, ils savent combien de bornes ils vont mettre, mais ils ne savent pas combien on va consommer sur chacune de ces bornes-là. Donc en fait, on va aller discuter avec le département qui s'occupe du kilométrage de ces véhicules électriques. En fait, les gens qui suivent aujourd'hui, soit pour des raisons assurantielles ou autres, comment la flotte existante, qu'elle soit électrique ou thermique, fonctionne. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est le kilométrage. En fait, si on a une borne de recharge de 22 kW, sauf que la personne, elle habite à 5 minutes et elle ne fait que les trajets de 5 km par jour, tous les jours, et elle vient se brancher, finalement, sa voiture ne va rien consommer et on ne va rien retirer. Donc, en fait, la réflexion n'est pas sur combien de bornes on a, mais sur combien de kilomètres, en fait, combien de kilomètres chacun de nos véhicules fait par jour en moyenne, bien évidemment, et puis, quelle est la typologie du véhicule et donc combien de kilomètres il va devoir prendre chaque jour du réseau. Voilà un peu en globalité comment on raisonne sur chacun de ces sujets.
Oui, moi j'ajouterais, j'adhère parfaitement à ce qui vient d'être expliqué, très bien expliqué d'ailleurs, parce que c'est jamais très simple d'expliquer ça. En fait, il y a un vrai échange qui doit être fait quand on est sur des projections, et ça va aussi dépendre du profil et de la qualité des échanges et de la projection que peut avoir le client. C'est-à-dire que vous avez des clients qui ont vraiment un plan bien établi, ils savent où ils vont. Et c'est là où je reviens parfois à l'audit aussi, qui permet vraiment de donner des tranches de travaux, des ordres de travaux, des ordres d'investissement, d'essayer d'associer des coûts à ces investissements. C'est pas toujours simple, en fait, d'avancer sur ça. C'est pour ça que les audits, encore une fois, pour moi, ne peuvent être qu'un plus, en fait, pour être le plus précis possible dans les projections. Et typiquement, quand on parle de voitures électriques et de flotte, il faut savoir que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais vous mettez une borne, vous pouvez mettre une borne de 22 kilos. Si vous avez une Zoé, une Renault Zoé, par exemple, elle ne pourra pas, de toute façon, quels que soient les kilométrages à recharger, ne va pas soutirer la même puissance qu'une Tesla. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a vraiment des sujets où plus les personnes seront avancées dans leur réflexion sur le type de véhicule, le nombre de véhicules, l'utilisation des véhicules, les travaux d'économie d'énergie qui seront faits en avançant dans le temps sur leur bâtiment, plus on aura d'informations, plus on saura être pertinent dans les projections. Mais encore une fois, voilà, des projections, ce sont aussi des hypothèses. Donc, voilà, pour faire des hypothèses, il faut avoir des éléments.
Entendu. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions. Donc, si ça vous convient, je vous propose qu'on...
Je crois qu'il y avait Franck Aimé qui... Très, très rapidement, monsieur Aimé.
J'ai juste une question sur les coûts de raccordement. Quand on a un site qui est raccordé en transport, on doit payer une quote-part qui est liée au renforcement de réseau, qui s'appelle S3R-ENR. Et je voulais savoir si on doit aussi payer cette quote-part lorsqu'on est raccordé au réseau de distribution. En fait, donc, quand on a un site qui est relié en transport, à partir du moment où on injecte sur le réseau, on doit payer une quote-part à RTE dans le cadre du renforcement du réseau électrique. Et je voulais savoir, cette taxe, cette quote-part, elle s'appelle S3R-ENR. Et je voulais savoir si cette taxe existait aussi pour des sites qui sont raccordés sur le réseau de distribution, donc chez Enedis, par exemple. J'avoue avoir posé la question à Enedis et je n'ai toujours pas de réponse. Mais...
Alors, pas à ma connaissance. Moi, je sais que vous avez la taxe IFER et la TURP, qui sont les taxes qui vont être collectées parce que vous allez être producteur d'énergie et car vous faites du renvoi sur le réseau. Moi, c'est les deux taxes que j'ai à ma connaissance. Après, hormis les taxes, il y a les coûts de raccordement dont on a parlé tout à l'heure, voilà, qui sont les coûts d'aménagement du réseau pour recevoir la puissance renvoyée. Mais je n'ai pas connaissance, en fait, moi, d'avoir cette taxe S3R-ENR. Je l'ai pas.
Ce n'est pas une taxe, c'est un montant à payer. Notamment, ça dépend de s'il y a des travaux ou pas, et puis de la puissance raccordée. Oui. Mais en fait, quand vous allez faire votre demande de raccordement à Enedis, ils vont vous donner le montant à payer, que ça soit le montant s'il n'y a pas de travaux en plus, dans le sens où la plupart du temps, si vous êtes sur des petites puissances qui sont inférieures à votre abonnement existant, il n'y a pas forcément des travaux en plus à faire. Après, si vous dépassez les 200 kWh de raccordement, et pas de, oui, c'est pas les 250 kWh, il peut y avoir des montants à payer. Et puis, effectivement, si vous êtes en train de dépasser votre abonnement, même si c'est inférieur à 250 kWh, s'il y a des travaux à réaliser parce que le réseau de distribution ne supporte pas ce que vous allez injecter de plus, vous allez payer une quote-part de la globalité des travaux qui vont être réalisés, donc la création de nouveaux transformateurs ou des choses comme ça, de quartier, pour votre partie, dans le sens où c'est pas parce qu'ils vous créent un transfo, parce que vous avez fait la demande vous-même, que vous allez payer 40% du transfo. C'est pas le cas. Ils vont considérer que ce transfo-là, quelle est sa puissance, vous, qu'est-ce que vous êtes en train de demander comme puissance, et ils vont faire une quote-part.
Ok, parce que RTE fait payer, en fait, cette quote-part... qu'il y ait ou pas de renforcement réel à effectuer. C'est une quote-part qui est payée et qui est différente en fonction des différentes régions de France. Ben, merci.
N'hésitez pas à nous écrire par un mail s'il y a besoin de creuser la question. On peut aussi tâcher de se renseigner, ou n'hésitez pas également à poursuivre la conversation. Vous avez les contacts des intervenants. Merci beaucoup à tous. Le support vous sera partagé en suivant très rapidement, et un podcast sera également disponible, préparé par l'Académie MEDEF. On poursuit également ce cycle d'exploration des opportunités de l'autoconsommation avec une prochaine date. Vous pouvez déjà la noter et vous inscrire. C'est le 17 juin. On invitera plusieurs intervenants à nouveau pour explorer la question de l'autoconsommation collective, qui en termes de défis est peut-être là encore plus exploratoire ou compliqué. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous.
Merci.
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 Merci. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Bonne fin de journée à tous. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement ? Rendez-vous sur le site lacademiemedef.fr.